Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bestiole hilare à la bien mauvaise réputation et sur laquelle on a raconté plein d'histoires inquiétantes et surprenantes, la hyène. J'aurai ensuite le plaisir de recevoir Flore Dauget, éthologue et journaliste scientifique, qui nous parlera d'homosexualité dans le règne animal. Merci Flore d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. On imagine leur silhouette inquiétante sortir de l'obscurité, leur museau maculé du sang des carcasses dont elles se nourrissent, un rire lugubre pendu aux babines. Pas à dire, l'image populaire de la hyène ne joue vraiment pas en sa faveur. Au sens figuré, la hyène renvoie à une personne lâche et cruelle. Et dans le dessin animé Le Roi Lion des studios Disney, Zazu le Calao les qualifie, je cite, « de bécasses baveuses, stupides et bouchées ». Rien que ça. Une affirmation tellement à côté de la réalité et susceptible de porter préjudice à ces animaux fascinants qu'un scientifique a tenté de poursuivre en justice les studios Disney pour diffamation. Mais qu'en est-il en réalité? Déjà, il faut le savoir, les hyènes ne font pas partie de la famille des canidés, celle des chiens, des loups et autres lycaons auxquels elles ressemblent. En réalité, le groupe des hyénidés est plus proche de celui des vivéridés, qui englobe les mangoustes, les genettes et les binturongues. En fait, d'un point de vue purement taxonomique, les hyènes seraient plus proches des félins, les chats et autres fauves, que des canidés. Ensuite, contrairement à la croyance populaire, ce sont d'excellentes chasseresses, et loin d'être exclusivement des charognards qui se nourrissent d'animaux morts, on a découvert qu'en réalité, les hyènes tuaient 84% de ce qu'elles mangeaient. Et loin de chipper constamment leur proie aux autres prédateurs, elles se font bien souvent rafler leur butin par les lions, qui abusent clairement de leur avantage physique. En plus, elles chassent à l'endurance, en courant longtemps après leur gibier, et ne tuent pas par surprise après un affût comme le font le léopard ou les lions. On ne pourra donc pas leur reprocher de ne pas jouer franc jeu. Les hyènes tachetées ont aussi une structure sociale complexe et originale. Elles vivent en groupe matrilinéaire, c'est-à-dire qu'une femelle dominante et tous ses petits seront placés tout en haut de la hiérarchie, au-dessus des autres femelles du groupe et de leur progéniture. Chez les hyènes, ce sont les femelles qui mènent clairement la danse. Celles-ci restent toute leur vie dans le même groupe social et ont le temps de nouer des alliances solides avec leurs congénères, contrairement aux mâles qui doivent quitter leur groupe de naissance une fois matures et refaire leur trou dans un nouveau groupe social. Ces associations seraient tellement fortes et utiles qu'elles suffiraient à rendre les femelles dominantes sur les mâles, alors qu'on pensait que c'était une différence dans la force ou l'agressivité des femelles qui jouait en leur faveur. Ces conclusions ont été publiées en avril 2018 dans la revue Nature, Ecology and Evolution par l'équipe du Hyena Project qui suit ces animaux depuis 20 ans dans le cratère du Ngorongoro en Tanzanie. Autre chose, leur sexe a longtemps troublé les scientifiques. On les pensait hermaphrodites, pourvus de deux sexes ou capables d'en changer à loisir. Même dans la langue française, il arrive qu'on dise l'hyène l' de manière non genrée. Le trouble des premiers naturalistes est facile à comprendre. Figurez-vous que mâles et femelles font la même taille, mais qu'en plus, ces dames sont pourvues d'un pseudo-pénis, qui est en fait un clitoris modifié, et d'un pseudo-scrotum, qui résulte de la fusion des lèvres de la vulve. Vu de l'extérieur, impossible de distinguer le mâle de la femelle. Cependant, ce pseudo-pénis représente un coût pour la femelle hyène, car plus étroit, moins flexible, il rend la mise bas plus difficile et coûte parfois la vie aux petits. Mais en contrepartie, puisque les voies génitales femelles sont modifiées et plus difficiles d'accès, le mâle ne peut s'accoupler qu'en complète coopération avec la femelle qui doit se tenir dans une position donnée. Ainsi, les femelles ont le contrôle complet sur l'identité de leur partenaire, ce qui reste somme toute assez rare chez les autres femelles de mammifères. Une dernière chose, les hyènes utilisent énormément la communication vocale pour échanger avec leurs congénères et peuvent produire tout plein de cris différents dans des contextes donnés. On leur connaît leur rire, mais c'est très loin d'être le cri qu'elles utilisent le plus. Conclusion, les hyènes sont des animaux pivots, essentiels au maintien de l'équilibre écologique des plaines africaines. Elles coopèrent entre elles pour chasser, s'entraident au sein du groupe, tiennent la dragée au taulion et vivent dans un système social complexe, au sein duquel des relations longues et profondes s'établissent entre les individus. Bref, elles réunissent tous les critères que l'on attribue aux animaux que nous considérons comme étant les plus intelligents. Grands singes, éléphants, dauphins et autres corvidés. Il était donc bien temps de remettre la hyène à sa place. rira bien qui rira le dernier. Même s'ils se doivent d'appliquer la démarche scientifique avec le plus grand sérieux, les hommes et femmes de science restent des humains, avec leurs préjugés et leurs vécus. Ce qui peut avoir de graves conséquences quand ils observent le comportement des animaux. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un sujet tabou, longtemps caché au grand public, l'homosexualité animale. Pour faire toute la lumière sur la question, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui à mon micro Fleur Dauget, éthologue et journaliste scientifique, qui a sorti cette année un livre intitulé « Animaux, homo, histoire naturelle de l'homosexualité » édité chez Albin Michel. Bonjour Fleur.
Bonjour Agatha.
Alors moi, tout d'abord, j'avais une question. Est-ce que l'homosexualité existe ailleurs que chez Homo sapiens ?
Alors oui, c'est tout le sujet de ce livre-là, de montrer que l'homosexualité, elle existe dans la nature. Elle a été observée chez à peu près 1500 espèces. Et véritablement étudié scientifiquement chez environ 500 espèces.
Mais chez tous sortes d'animaux ?
Alors oui, justement, tous les ordres d'animaux sont concernés. On va trouver ça aussi bien chez les insectes que les poissons, les reptiles, les oiseaux, les mammifères. Donc il y a vraiment des exemples chez des animaux de toutes sortes.
D'accord. Et est-ce que ça, tous ces comportements homosexuels, on le connaît depuis longtemps, c'est quelque chose qui nous intéresse depuis longtemps, ou on l'a caché? Comment ça se fait qu'on n'en ait pas tant entendu parler?
Ça semble récent, en effet, alors qu'on connaît ça depuis l'Antiquité. Aristote en parlait déjà dans son Histoire des animaux. Il parlait des activités licencieuses, des perdrix, des cailles, qui avaient des activités homosexuelles. On disait qu'elles étaient très lascives. Enfin, il y a vraiment un style très, très typique de l'Antiquité. Et puis ça a été repris vraiment au cours de l'histoire. Buffon, il en parle aussi. On parle aussi des pigeons femelles qui se couvrent entre elles, comme on disait à l'époque. Donc c'est pas du tout récent, mais c'était souvent traité comme une exception, ça l'est toujours, comme une anomalie, comme une bizarrerie, et pas comme un sujet d'étude à part entière. Alors que c'en est un, c'est un sujet d'étude en tant que tel, à mon avis, et j'encourage les étudiants qui nous écoutent peut-être à se lancer sur ce sujet passionnant qui manque cruellement d'études. Et pourquoi ça manque cruellement? Je fais les questions aussi. C'est parce que l'homosexualité, de tout temps, ça a été un sujet tabou, même chez les scientifiques, et ça l'est encore aujourd'hui.
Et même dans des cultures où, par exemple, ça pouvait être accepté chez les humains. Chez les animaux, c'était quand même mal vu, ou c'était pas forcément bien perçu.
Quel genre de culture tu penses?
Mais par exemple, je pense dans la Grèce antique, où par exemple, chez les hommes, ça pouvait être plutôt bien perçu d'avoir une relation homosexuelle entre hommes.
Oui, alors justement, les Grecs et les Romains aussi pensaient que l'homosexualité n'existait pas dans la nature.
D'accord.
Et du coup, ils considéraient que c'était une sexualité supérieure, en tout cas celle entre hommes, évidemment, parce que celle entre femmes, c'était pas la même chose. Et que c'était quelque chose à encourager parce que justement, c'était contre nature, quelque part.
D'accord.
Et ça, on en reparlera peut-être après.
Tout à fait. Et donc, des premières études, vous disiez qu'il y en avait dès l'Antiquité, mais il y en a eu tout au long. Dans votre livre, par exemple, vous parliez d'insectes. Des coléoptères, etc. Ça, dès 18e, 19e, c'était régulièrement rapporté, mais ça n'a pas été davantage creusé, quoi. C'était des anecdotes qui n'ont pas été plus développées.
Oui, c'était rapporté quand même de manière assez rare, hein, parce que les sources que j'ai trouvées, on les compte quand même sur le doigt d'une main ou deux, maximum. Et donc oui, il y a un biologiste au 19e, Gadeau de Kerville, qui a pas mal parlé de la pédérastie chez le hanneton. Donc à l'époque, ça avait fait quelques remous parmi les entomologistes, parce qu'il parlait à l'époque d'une pédérastie d'un côté par nécessité. C'est-à-dire que ça, c'était une idée assez commune et acceptée dans la communauté scientifique. On disait que s'il y avait une absence de femelles, par exemple, les mâles n'avaient pas le choix. Donc voilà, la source de l'homosexualité, de la pédérastie, comme on disait, c'était ça. Et lui, il a observé chez les hannetons que quand il y avait plein de mâles et plein de femelles, il y avait malgré tout des mâles qui copulaient entre eux. Et donc, il avait parlé pour la première fois de cette pédérastie par goût, et donc par choix, et qui montrait une véritable tendance, quelque part. Et alors ça avait créé un tollé à l'époque.
Ça ne devait pas être bien accepté, en effet. Et donc, pédérastie, pour revenir sur l'origine du mot, parce que c'est un mot qui est totalement tombé en désuétude, c'était l'équivalent de l'homosexualité, de l'attirance pour deux individus du même sexe.
Pas tout à fait au départ. En fait, dans l'Antiquité, la pédérastie, c'était une relation entre un homme adulte et un adolescent.
D'accord.
Dans la Rome antique, dans la Grèce antique, les relations homosexuelles, c'était souvent ça, une sorte de relation de maître à élève qui incluait cette forme de sexualité. Et après, c'est devenu un mot qu'on utilisait pour parler des relations sexuelles entre hommes adultes. Et puis aujourd'hui, effectivement, on parle plutôt d'homosexualité. C'est au cours du 19e siècle que ce terme a été inventé.
D'accord. Donc oui, ça peut expliquer aussi des fois les amalgames malheureux qui peuvent être faits aujourd'hui entre homosexualité et pédophilie.
Tout à fait.
Qui n'ont absolument rien à voir.
Exactement.
Alors moi, je me demandais aussi, parce que c'est vrai que souvent dans les livres naturalistes, on parle de Darwin, de la sélection naturelle. Le but, c'est de procréer, de s'étendre en plus grand nombre. Mais quand on se retrouve en couple avec un individu du même sexe, il n'y aura pas de reproduction. Donc quelle serait la fonction de l'homosexualité dans ces cas-là ?
Alors, justement, l'homosexualité, elle n'empêche pas la reproduction. On va en parler. Et concernant les fonctions de l'homosexualité, il y a énormément d'hypothèses différentes. Il n'y a pas vraiment de réponse toute faite, parce que, évidemment, c'est un phénomène complexe. Donc, je pense qu'il y a une multitude de fonctions qui sont possibles aussi en fonction des espèces. Donc, dans le livre, je fais un peu la liste de toutes ces hypothèses-là. Je ne vais pas vous la faire là, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais on a donné plusieurs explications, dont certaines sont assez fantaisistes et teintées de machisme, de préjugés culturels typiquement humains. Par exemple, certains scientifiques vont dire que peut-être l'homosexualité entre femelles serait une façon de rendre les mâles jaloux, d'attirer les mâles.
Donc ça, c'est quand même très sexiste.
Totalement. Ce sont des scientifiques soi-disant sérieux qui donnent ce genre d'hypothèse-là.
Mais souvent des scientifiques hommes, j'imagine.
Voilà, en plus, exactement. Et alors, plus sérieusement, il y a aussi une hypothèse qui parle qui dit que l'homosexualité pourrait constituer une affirmation de la dominance.
D'accord.
Mais ça ne tient pas du tout. Parce que, par exemple, chez les bonobos, d'autres primates, d'autres espèces encore, ce sont souvent les dominés qui sollicitent un rapport. Ou qui sont ceux qui montent sur leur partenaire. Mmh. Donc, je rappelle que dans les rituels qui ont vraiment à voir avec la dominance, c'est le dominant qui fait semblant de monter sur le dominé. Et puis, ce sont vraiment deux choses différentes. Ça, quand ça arrive, ce sont des rituels sociaux, donc il n'y a pas pénétration. Mmh. C'est vraiment juste une sorte de simulation.
Une posture, quoi. Ouais.
Oui, voilà, une posture. Et de l'autre, il y a de vraies relations sexuelles homosexuelles avec copulation ou fellation, cunnilingus, tout ce qu'on veut. Qui sont vraiment deux choses différentes. Donc on ne peut pas dire que c'est juste une affirmation de la dominance. Ce serait vraiment trop simpliste. Et puis oui, ça ne tient pas du tout. Alors il y a quelque chose, une explication que je trouve très intéressante pour certaines espèces et qui tient plutôt bien, pour les babouins olives et les grands dauphins, par exemple. On dit que l'homosexualité aurait une fonction d'alliance pour les mâles. Donc les mâles, ils forment des couples soudés qui durent longtemps, parfois toute la vie pour ce qui est des grands dauphins en tout cas, et qui leur permet de se défendre contre les autres mâles ou d'avoir un meilleur accès aux femelles. Par exemple, les dauphins, quand ils sont deux, ils vont courser des femelles et ils vont avoir plus de chances de s'accoupler avec elles, donc de se reproduire.
Oui, donc là, oui.
En étant dans un couple homosexuel, et puis ils ont aussi des rapports sexuels entre eux. Donc voilà en quoi l'homosexualité peut favoriser la reproduction, alors qu'au départ, ça paraît tout à fait impossible. Et puis il y a encore bien d'autres exemples. Par exemple, chez les oiseaux, chez les albatros de Laysan, qui vivent sur une île de l'archipel d'Hawaï, il y a certaines populations qui sont composées de plus de mâles que de femelles.
D'accord.
Donc certaines femelles, au lieu de ne pas se reproduire, du tout. Mmh. Elles deviennent homosexuelles, on va dire, ou elles sont homosexuelles. Elles vont s'accoupler chacune avec un mâle, chacune de leur côté, et elles vont élever leurs petits ensemble, parce que seules, elles ne pourraient pas le faire.
Bah oui, parce que le temps d'aller se nourrir ou autre, elles ne peuvent pas garder l'œuf.
Voilà. Et souvent, d'ailleurs, elles n'ont vraiment qu'un petit ou deux, et puis il faut prendre du temps pour aller pêcher, etc. Donc il y a besoin d'un gardien pour le petit. Donc, dans ce cas-là, encore une fois, l'homosexualité, elle permet une reproduction qui n'aurait pas lieu si cette sexualité-là n'existait pas.
D'accord. Donc oui, en effet, ça permet d'autres alternatives. Mais est-ce qu'on peut aussi envisager que l'homosexualité n'a pas de fonction première et qu'en fait, ce serait juste le résultat d'une envie de se faire plaisir ?
Ben exactement. Moi, je pense personnellement que l'explication, elle est aussi simple que ça, même si elle peut aussi être bien plus complexe, comme on l'a vu. Il y a bien plein d'autres auteurs qui le disent que le plaisir, c'est probablement la cause primordiale de l'homosexualité, et comme la sexualité en général d'ailleurs. On nous a longtemps enseigné que les animaux n'auraient de rapport sexuel que pour se reproduire. Mais on sait aujourd'hui que c'est faux, parce que dans la nature, il y a de la masturbation. Évidemment, pas de reproduction dans ce cas-là. Il y a de l'homosexualité, on l'a vu. Il y a aussi beaucoup de rapports hétérosexuels pendant les règles, pendant les grossesses, etc. Donc, en dehors de la période de la saison des amours, par exemple, qui n'ont d'autres buts, finalement, que de se faire du bien. Et puis, en plus, les animaux, ils ne se disent pas « Oh là là, il faut que j'assure ma descendance et que je me reproduise. »
Tout à fait.
comme pour beaucoup d'autres activités, ils ont des rapports sexuels parce que ça leur fait du bien. Et incidemment, ils se reproduisent. Donc, finalement, la reproduction, ce serait plutôt une conséquence du plaisir.
Oui, plutôt qu'une volonté première de se reproduire.
Exactement, oui. Et puis, en plus, les circuits du plaisir, ils existent dans le cerveau. Donc aussi bien chez les animaux que chez les êtres humains, et puis même chez les insectes. Donc tout ça, ça n'a rien d'absurde.
Donc le plaisir peut aussi jouer un rôle primordial. Du plaisir, on vous en donne tout de suite, avec une courte pause musicale. On se retrouve tout de suite sur Campus. C'était Miss Miss, extrait de l'album Cité Champagne de Moodoïd. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans l'émission Le Nid de Pie et je reçois aujourd'hui Flore Dauget, éthologue et journaliste scientifique, autrice de l'ouvrage Animaux Homo, histoire naturelle de l'homosexualité, paru chez Albin Michel. Alors nous avons vu juste avant que l'homosexualité était plutôt courante dans le monde animal, qu'elle n'est pas contre nature entre guillemets, mais est-ce un argument pour dire qu'elle doit être acceptée socialement? Si c'est naturel, est-ce que c'est forcément acceptable?
Alors c'est une très bonne question Agatha, qui va au-delà de l'étude biologique ou éthologique de l'homosexualité, mais qui est essentielle. J'ai fait récemment une vidéo pour Brut sur l'homosexualité animale, et il y a beaucoup de commentaires qui reviennent très souvent du type « Ah alors, si les animaux tuent leurs enfants, c'est bien et on devrait faire pareil
». Des trolls.
Vous voyez bien le genre. Il y en a vraiment beaucoup et j'ai même des amis qui m'ont posé ce genre de questions de manière plus cordiale, on va
nuancée.
Dire. Voilà. Et donc, ce sujet, il est important philosophiquement, moralement, parce que de tout temps, on a questionné la nature pour en tirer des leçons de morale sur les conduites humaines. Donc tantôt on dit les animaux font ceci, donc c'est bien, nous devrions faire pareil parce que c'est naturel. Tantôt on dit le contraire, si les animaux font quelque chose c'est bestial, donc les humains ne devraient pas le faire. Et concernant l'homosexualité, certains vont dire c'est contre nature, ce n'est pas dans la nature, donc on ne doit pas le faire. Ces mêmes personnes, quand on leur démontre le contraire, comme je le fais dans mon livre, ils rétorquent alors « Ah, mais on n'est pas des animaux ». Donc là on commence à voir l'absurdité de la chose. Et comme on en a parlé aussi tout à l'heure, dans l'Antiquité romaine, on pensait que l'homosexualité n'existait pas chez les animaux et que donc chez les humains, c'était une sexualité supérieure à l'hétérosexualité. Donc ça part dans tous les sens. Et on voit bien qu'on ne peut pas prendre la nature comme un étalon de la morale humaine, parce que ça n'a vraiment aucun sens. Pour aller plus loin, je pense que pour savoir si l'homosexualité doit être acceptée ou non chez l'humain, il faut se poser une question toute simple. Est-ce que ça provoque de la souffrance? Parce que si on condamne dans nos sociétés le meurtre, le viol, l'infanticide, l'inceste, c'est parce que ces crimes font du mal à ceux les subissent. Et ce sont des crimes. Mais l'homosexualité, elle ne rentre pas du tout dans ce cadre. Elle ne fait pas de mal à ceux qui la pratiquent. Au contraire, même.
Au contraire.
donc on ne peut pas la considérer comme un crime, on ne peut pas la condamner moralement de ce point de vue-là. Donc voilà, je pense que c'est aussi simple que ça.
Oui, tout à fait. Et moi, ce que je me demandais aussi, donc sur un autre thème, on a vu précédemment qu'il y avait des relations homosexuelles aussi bien entre femelles qu'entre mâles. Donc finalement, aussi, est-ce que les animaux sont plutôt bisexuels, finalement?
Ben oui, en réalité, c'est surtout de la bisexualité qui existe dans la nature. Les animaux qui sont strictement homo, ça existe, mais c'est assez rare,
d'accord.
Finalement. On en a observé, par exemple, une femelle macaque japonais qui vivait
qui
dans un zoo.
Toute sa vie a été avec une femelle?
Oui.
D'accord.
Ou plusieurs femelles, mais qui vraiment ne voulaient jamais se laisser toucher par un mâle, alors que ça, c'est vraiment assez rare. Et donc voilà, la bisexualité est plutôt courante.
C'est plutôt le plus répandu. Et moi, je me posais aussi la question, qu'est-ce qu'il en est des transgenres, ceux qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur est attribué, des transsexuels qui peuvent changer de sexe? Est-ce qu'on peut observer ce genre d'exemple dans le monde animal?
Oui, et là aussi, c'est très très méconnu, hein, ce genre de sujet-là. Donc les deux existent, la transsexualité, donc des animaux qui vont véritablement changer de sexe. Donc chez les poissons, ça existe beaucoup. Par exemple, le fameux Nemo, le poisson clown. Un mâle peut devenir une femelle. Chez le mérou aussi, ça existe, hein, les femelles qui se transforment en mâles ou inversement. Et chez encore plein d'autres espèces. Et après, il y a les animaux transgenres. Donc là c'est différent. Comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont des animaux qui vont se comporter comme le sexe opposé. Donc il y a un exemple qui est vraiment assez incroyable chez les mouflons du Canada. C'est assez fascinant parce qu'en plus, il s'agit d'une société où l'homosexualité entre mâles domine. Il y a beaucoup d'homosexualité dans les groupes de mâles parce qu'en fait, la majorité de l'année, les mâles restent entre eux, les femelles, elles, restent entre elles et ils se retrouvent qu'à la saison de reproduction. Donc les mâles entre eux ont beaucoup de relations homosexuelles et certains n'acceptent pas ça. Ils se fondent dans les groupes de femelles et se comportent comme les femelles, donc on dit qu'ils sont efféminés, les scientifiques le disent comme ça, ou par exemple ils vont uriner comme les femelles, parce qu'il y a une position bien particulière, ils vont refuser tout accouplement avec les mâles, comme le font les femelles en dehors de la période de reproduction, Et donc voilà, ce sont des animaux transgenres finalement.
Et qui préfèrent rester avec les femelles. Mais au niveau de leur aspect physique, ils ont les cornes comme des mâles, etc. C'est juste qu'ils ont des postures comme pour uriner, etc., qui ressemblent à celles d'une femelle.
Oui, et ils ont véritablement un comportement assez différent. Ils sont beaucoup moins intéressés par la sexualité, par exemple, en tout cas pendant cette période-là de l'année.
D'accord. Alors, il y avait une autre question que je voulais aborder avec vous. Dans votre livre, vous définissez un nouveau terme qui est celui de sexodiversité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, c'est un concept qui s'est imposé à moi au fur et à mesure de l'écriture du livre et des découvertes que je faisais. La sexodiversité, c'est une composante de la biodiversité. Donc, ce terme, il permet de rendre compte de la diversité et de la flexibilité des systèmes d'appariement et des comportements sexuels. Donc les systèmes d'appariement, ça va être le fait d'être monogame, de vivre en harem, de vivre en ménage à 3, à 4 ou à 5, parce que ça existe aussi dans la nature. Donc les monogamies strictes, les monogamies en série, aussi la polyandrie. La polyandrie, ce sont des femelles qui vont s'accoupler avec plusieurs mâles. Donc il y a une diversité comme ça énorme dans la nature qui est en plus flexible selon les endroits où une même espèce, par exemple, peut dans un certain environnement être monogame et dans un autre vivant en RM. Donc il y a une grande flexibilité là-dedans. Et donc ça fait partie pour moi ça de la biodiversité. Parce que la biodiversité, c'est pas seulement la variété des espèces et la variété des gènes à l'intérieur des espèces, c'est souvent comme ça qu'on la définit. Elle comprend aussi un volet comportemental qui est souvent sous-estimé. Et la sexodiversité, elle en fait partie de ça. Et l'homosexualité, c'est une facette
partie de cette grande diversité.
Oui, exactement.
Et je voulais conclure sur une autre question qui me taraudait. On parle de relations homo, mais qu'en est-il de la parentalité homosexuelle ? Est-ce qu'on a déjà vu des animaux de même sexe élevés avec succès des petits ?
Oui, bien sûr. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure et je peux donner d'autres exemples d'homoparentalité. Par exemple, chez les cygnes noirs australiens, il y a des couples de mâles qui existent. Et donc, ils vont soit s'accoupler avec une femelle et puis une fois qu'elle a pondu les œufs, ils lui disent bye bye.
ils chassent la femelle, ils récupèrent les œufs.
Exactement, oui. Ou alors, ils vont adopter une couvée qui a été abandonnée par les parents parce qu'ils sont morts, qu'ils sont partis. Et souvent, ces parents-là, comme chez les cygnes noirs, ce sont les mâles qui possèdent les territoires. Quand ils sont deux mâles, ils ont des grands territoires, plus grands qu'un couple hétérosexuel. Ils sont aussi plus forts pour le défendre. Et souvent, ils élèvent davantage de petits. Ils ont un succès reproducteur plus important qu'un couple hétérosexuel.
Parce qu'ils arrivent à monopoliser plus de ressources.
Voilà, c'est ça. Ils sont mieux nourris, ils sont mieux protégés, ces petits-là.
Donc, comme quoi, être du même sexe, ce n'est pas du tout un frein à aider avec succès des petits.
Pas du tout.
Eh bien, merci beaucoup, Fleur, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour toutes ces informations. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous propose quelques conseils de lecture pour rester dans le thème. C'est tout de suite. Si vous avez aimé la chronique sur les hyènes, je ne peux que vous recommander chaudement le site du Hyena Project, qui est extrêmement complet et en plus traduit en français. Filez donc à l'adresse suivante https://hyena-project.com. Pour en apprendre plus sur l'homosexualité dans le règne animal, voici quelques ouvrages qui devraient vous fournir des informations complémentaires. Alors, Fleur suggérait deux ouvrages. Le premier en langue anglaise, qui reste la Bible en la matière. Il s'agit du livre Biological Exuberance de Bruce Bagmill. Et le second, en français, est un ouvrage de Thierry Laudet intitulé La biodiversité amoureuse, paru aux éditions Odile Jacob. Pour les plus jeunes et les moins jeunes, je vous encourage aussi à lire deux albums illustrés. Le premier est aussi un ouvrage écrit par Fleur, dont le titre est « La vie amoureuse des animaux », illustré par Nathalie Desforges et paru aux éditions Actes Sud Junior, qui parle de sexualité animale et de toutes les associations que l'on peut trouver. Le dernier s'appelle « Tango à deux papas et pourquoi pas » de Béatrice Boutignon et publié aux éditions du Baron Perché. Ce dernier album a fait polémique à sa sortie et certaines associations ont tout fait pour qu'aucun enfant ne puisse lire cette belle histoire. Bien heureusement, l'album est toujours là et je vous invite sincèrement à le lire. Il est très joliment illustré à l'aquarelle et raconte l'histoire vraie et attendrissante d'un couple de mâles manchots à jugulaire, Roy et Silo, qui étaient hébergés au zoo de Central Park à New York. Malgré une longue insistance pour les forcer à aller voir des femelles, les deux mâles restaient ensemble et construisaient un nid qui restait désespérément vide. Finalement, les soigneurs leur ont confié un œuf fécondé, mais délaissé par les parents biologiques. Ils l'élevèrent avec succès, qui fut baptisé Tango. Le livre s'achève ainsi. Les visiteurs cherchent à la reconnaître, ils veulent la voir car elle est la seule ici à avoir deux papas. C'est comme ça, et pourquoi pas. C'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse, à la technique, à toute l'équipe de Campus FM, et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à dans 15 jours, à 17h, pour de nouvelles aventures animalières, et d'ici là, gardez la pêche.